Radio Okapi.
Le journal Agatouna Elima.
Okapi.
Victoire des FRDC sur les rebelles du M23. Les forces régulières de la RDC ont repris la colline de Kibati hier vendredi. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, confirme et condamne les tirs du M23 sur le territoire rwandais. Situation humanitaire aléatoire et préoccupante sous plusieurs aspects dans le Maniema. Le gouverneur de province appelle les humanitaires œuvrant sur place à apporter plus d'assistance aux nécessiteux dans la province. Le secteur de Kafira dans le territoire de Kasenga au Katanga serait celui qui connaîtrait le plus de violations de droits de l'homme. Dénonciation faite sur place par l'ONG Linapedo. Bienvenue dans ce journal qui commence par le Nord Kivu. La colline de Kibati appelée Trois Antennes est entre les mains des FARDC depuis hier vendredi. Cette position est située à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. La reprise de Kibati est intervenue après de violents combats entre le M23 et les forces loyalistes appuyées par la brigade d'intervention de l'ONU. Dans un communiqué rendu public hier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a confirmé que les rebelles du M23 avaient tiré en direction du territoire rwandais, malgré les affirmations de Kigali, mettant plutôt en cause les forces gouvernementales congolaises. Lievin Bwinga.
Dans ce communiqué, Ban Ki-moon condamne en particulier des tirs non ciblés émanant du M23 qui ont causé des morts, des blessés et des dégâts matériels parmi la population civile à l'est de la RDC et dans les zones frontalières au Rwanda, de même que parmi les casques bleus. Pour ce faire, le secrétaire général encourage toutes les parties prenantes à poursuivre un processus politique global qui s'attaque aux causes profondes du conflit à l'est de la RDC. Il souligne d'ailleurs que les personnes qui entravent le processus actuel et celles qui enfreignent le droit international devront répondre de leurs actes. Mais ce Ban appelle également tous les acteurs régionaux concernés à exercer la plus grande retenue et à s'abstenir de tout acte ou de toute déclaration susceptible d'entraîner une détérioration supplémentaire de la situation. Le communiqué indique enfin que l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs, Mary Robinson, et le représentant spécial pour la RDC, Martin Kobler, sont engagés en ce moment dans des actions diplomatiques intenses aux fins d'améliorer la situation actuelle.
Par rapport à cette situation, l'armée sud-africaine a sévèrement mis en garde les rebelles du M23 contre toute tentative de reprendre la ville de Goma. Le lieutenant général Derek Mgwebi, chef du commandement conjoint sud-africain, l'a déclaré hier vendredi au cours d'un point de presse à Pretoria. Je cite, « Nous essayons d'envoyer comme message au M23, cette fois-ci vous n'aurez pas Goma », a déclaré l'officier sud-africain. Sachez que l'Afrique du Sud compte 1345 soldats détachés au sein de la nouvelle brigade d'intervention déployée par la mission des Nations Unies dans l'est de la RDC. En politique à présent, disons que les concertations nationales démarrent en principe le mercredi 4 septembre prochain. Un règlement d'ordre intérieur de ces assises est déjà disponible et devra être présenté à l'Assemblée plénière qui en prendra acte. Selon son article 1er, ce règlement intérieur fixe les règles relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des concertations nationales. Il précise aussi les questions à débattre dans le cadre des thématiques retenues, le nombre et les critères de désignation des participants. Jacques-Yves Molima a décortiqué pour nous ce règlement. Il nous en donne ici les grandes lignes.
L'article 15 de ce règlement atteste que le président de la République procède à l'ouverture solennelle des concertations nationales. Il fait un discours d'orientation générale. Ces concertations se tiennent au Palais du Peuple à Kinshasa, tandis que les travaux des États généraux peuvent se tenir respectivement à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani sur décision du Présidium. Elles ont une durée de 15 jours, 5 en plénière et 10 en états généraux. Le Présidium peut fixer une durée supplémentaire ne dépassant pas 5 jours. En effet, les concertations comprennent 3 organes, l'Assemblée plénière, le Présidium et les états généraux. L'Assemblée plénière est l'organe de validation des conclusions et recommandations issues de ces concertations. Ces décisions se prennent par consensus. Le Présidium a la mission générale de direction et de représentation des concertations nationales. Il veille à l'organisation et au maintien du consensus comme mode de prise de décision de la plénière. Les états généraux qui sont composés des groupes thématiques, font un diagnostic et développent une analyse prospective de la situation du pays dans les secteurs examinés et en dégagent les recommandations. Des recommandations qui seront présentées sous forme de rapport final des concertations nationales et seront remis au chef de l'État qui prononcera son discours de clôture.
Clôture ce vendredi à Kinshasa de l'atelier de formation sur le leadership et la gestion des conflits. Formation destinée aux acteurs de la société civile de la capitale et organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'objectif de cette formation est de développer les capacités des parties prenantes au processus électoral en RDC en ce qui concerne particulièrement la prévention de la violence électorale. André Mpungwesongo, vice-président de la CENI, lors de son adresse de clôture aux participants, leur a fait savoir le rôle qu'ils joueront auprès de la population. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous sommes présentement en mesure d'échanger avec toutes les couches de la population congolaise sur la feuille de route des élections. Outil que nous venons de produire à l'issue de notre premier séminaire de planification stratégique à Kinshasa. Cette feuille de route que nous prendrons le temps d'expliquer aux différentes parties prenantes, gouvernement, parlement, instances judiciaires, pouvoir coutumier, société civile, partis politiques, confessions religieuses, à l'avantage de mettre chaque composante de notre pays face à ses responsabilités pour une bonne tenue des élections en République démocratique du Congo. En clair, les élections que nous préparons à organiser dans les mois qui suivent vont concerner tout un chacun.
Dans un autre chapitre, l'entreprise de téléphonie cellulaire Airtel a finalement souscrit sa connexion à la fibre optique. La signature du contrat, qui intervient après 2 mois après l'inauguration de la station d'atterrage de Mwanda entre cette société et la société congolaise des postes et télécommunications, OCPT, a eu lieu hier jeudi à Kinshasa. Airtel, comme d'autres sociétés de télécommunications, justifiaient leur réticence à se connecter à cette fibre pour 2 raisons, défaillance technique et prix trop élevé. Ces 2 préoccupations ont-elles trouvé satisfaction pour qu'Airtel se connecte enfin? Tentative de réponse avec vous, Innocent Olinga.
Airtel n'était pas d'accord avec 250 000 dollars par mois pour CTM One, soit 155 mégabytes, que lui demandait la SCPT alors qu'en Zambie ou en Tanzanie, à l'en croire, les prix pour cette même quantité varient entre 15 000 et 25 000 dollars par mois. Combien Airtel a-t-elle donc accepté de payer maintenant? Les responsables de cette société n'avancent pas les montants convenus, mais parlent tout simplement d'un terrain d'attente trouvé. John Aloukou, directeur juridique d'Airtel.
Notre offre était de 45 000 au départ. Et les 2 côtés, nous avons mis chacun de l'eau dans son vin et nous sommes arrivés à un prix raisonnable, aussi bien pour eux que pour nous.
Quant à la défaillance du câble et de la maintenance de cette fibre, Airtel dit être rassuré.
La SCPT nous a rassuré qu'elle a un contrat avec Huawei, un contrat de maintenance. Et nous également, nous avons comme fournisseur des équipements Huawei et nous connaissons l'expertise de Huawei en matière de fibre optique. C'est ainsi que nous avons dit que la SCPT nous a présenté suffisamment de garanties.
Airtel rejoint ainsi Vodacom qui s'était déjà connecté à la fibre optique une semaine après l'inauguration de la station d'atterrage des Mwanda.
À Kindu, le gouverneur de la province du Maniema invite les acteurs humanitaires à apporter plus d'assistance aux nécessiteux dans la province. Pascal Toutou Saloumou l'a dit au cours d'une réunion sur la situation humanitaire tenue hier vendredi. Tous les intervenants, dont les agences des Nations Unies qui œuvrent dans ce secteur, ont été conviés à ces assises. On écoute le gouverneur Pascal Toutou Saloumou dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga Chamboui.
Je voudrais ici, de manière globale, affirmer que la situation humanitaire dans la province reste encore aléatoire et préoccupante, tant sur le plan de la santé, sur le plan de la nutrition, sur le plan de la santé alimentaire, que sur le plan des catastrophes naturelles. Depuis l'année passée, nous avons enregistré dans la cité de Kasson des incendies d'origine inconnue et à répétition, mais aussi des incendies d'origine accidentelle, comme le cas que nous venons d'enregistrer il y a 2 jours à Kibangula. Plus ou moins 37 maisons qui ont pris feu et les gens vivent dehors. Et depuis lors, une action énergique pour assister ces compatriotes victimes de catastrophes naturelles n'a pas encore été menée.
Pour finir, disons que le secteur de Kafira dans le territoire de Kasenga est considéré aujourd'hui par la Ligue paysanne des droits de l'homme, coordination du Katanga, comme celui qui connaît le plus de violations de droits humains. La déclaration a été faite hier par le superviseur de la LINAPEDO. C'était en marge du séminaire portant sur le renforcement des capacités des membres de cette ONG de droits de l'homme. Rubin Mukindi, superviseur de la LINAPEDO secteur Kafira, au micro de Denise Maéo.
Les militaires déployés dans ces secteurs perçoivent des taxes. Ils ont érigé trois barrières, à Mandumbile, en Tondo et à Bunkeya. À chaque barrière, il faut payer 1000 francs et acheter un jeton. Si tu n'as pas 3000 francs, tu ne peux pas arriver à Bunkeya ni à Likasi. Si tu portes un colis, tel celui de poisson, tu dois payer 10 000 francs. Chaque véhicule paye aussi 10 000 francs. Et c'est la même population qui se cotise pour les nourrir. En plus, ils se permettent de juger des cas de viol et perçoivent des amendes de 100 000 ou 200 000 francs, et ça s'arrête là.
Fin de ce journal, chers auditeurs, merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.